C'est certainement une aventure pour moi de présider une telle séance illustre dans le Collège de France. Nous avons maintenant le plaisir de suivre la présentation d'Eddy Veneziano, Université Paris-Descartes. Elle est une spécialiste sur le développement de l'enfant, développement de langage, avec un parcours très illustre international. Elle est depuis 15 ans maintenant en France et je vous donne immédiatement la parole.
Merci beaucoup et je remercie comme mon prédécesseur ici, donc les organisateurs de ces colloques pour m'avoir fait confiance et pour venir exposer quelques idées sur ces sujets très passionnants de la pluralité interprétative. Certaines choses ont été déjà dites, donc il y aura un peu de chevauchement et quelques répétitions, mais comme on sait, donc répétit à Jouvent et peut-être au bout de quelques répétitions, on sera plus au clair. Donc, je voudrais commencer avec cette citation sur laquelle, en fait, je suis tombée un peu par hasard ces derniers jours à nouveau. Et donc, c'est George Bernard Shaw qui nous disait que « When a man wants to murder a tiger, he calls it sport ». But when a tiger wants to murder him, he calls it ferocity. Et en fait, on peut dire que dans cette citation, on voit que la question de la pluralité des points de vue dans sa décentration, coordination et intégration, qui serait donc le summum de cette conquête intellectuelle, est quelque chose que nous devons reconquérir très souvent. Et ça sera un tout petit peu aussi le fil conducteur de mon exposé. Donc, je serai très brève sur cette notion, mais c'était donc pour la situer chez Jean Piaget qui, en fait, l'a étudiée parmi les premiers d'un point de vue empirique. Donc, on a commencé à avoir des données sur cette capacité de l'enfant à se décentrer, à prendre le point de vue de quelqu'un d'autre. Et en fait, il a pu constater que pendant une certaine période qui va entre 3 et 6, 7 ans, les âges étant toujours un tout petit peu approximatifs, l'enfant se trouve dans ce qu'il a appelé un égocentrisme intellectuel. Un égocentrisme intellectuel qui, en fait, se manifeste par une difficulté à prendre en même temps en considération son point de vue et celui de quelqu'un d'autre. Donc ici, c'est la poupée. Il doit choisir l'image qui correspond à ce que la poupée voit. Mais l'égocentrisme intellectuel, par exemple, se manifeste aussi dans un manque de réciprocité. Par exemple, si on peut demander à l'enfant « Est-ce que tu as un frère ?» Et l'enfant peut dire « Oui, mon frère, il s'appelle Pierre. » Et puis Pierre, est-ce qu'il a un frère ? Et l'enfant dit « Non, on n'est que deux, nous, dans la famille. » Donc, cette manquance de relations réciproques, frère, je suis frère de quelqu'un d'autre, et aussi l'autre est frère. L'autre a un frère et ses frères c'est moi. Donc c'est cette double relation qui a un problème. La même chose quand il s'agit de compter, par exemple. Piaget a fait cette expérience. Si on oublie de compter l'enfant, eh ben, il dit et moi alors je suis là aussi. Hein. Mais si lui il doit compter, alors il risque lui-même de s'oublier parce qu'il doit assumer ce double rôle d'être à la fois celui qui compte et celui qui est compté. Donc, cette intégration de ces deux rôles pose pendant cette période un problème donc, d'un point de vue cognitif. Comme déjà donc, Olivier Houdet vous a expliqué, on a développé depuis maintenant 25 ans, la première étude donc, remonte à 83 par ces deux messieurs, Wimmer et Pern. Et une fois donc, que les enfants résoutent cette petite situation-là, ça veut dire qu'ils ont compris que En fait, on peut avoir deux états du monde. Il n'y a pas un seul état du monde. Hein. L'état du monde du personnage, qui est différent de l'état du monde qu'a dans la tête l'enfant. Parce que l'enfant, il a vu donc, notre sujet, il a vu le déplacement d'un endroit à un autre. Voilà. Et donc, il fait cette inférence qu'il n'a pas l'information suffisante. Donc, l'état du monde qui est dans la tête du personnage est un état du monde qui est faux. Et donc, le personnage se trouve dans un état de fausse croyance. Évidemment, c'est des choses qui passent dans le raisonnement et dans sa tête, ne sont pas du tout explicites. Alors, la question sur laquelle je vais me centrer un peu plus, c'est... Étant donné donc ces faits empiriques de cet égocentrisme intellectuel, les situations de fausses croyances qui sont résolues quand même un peu plus tôt que certaines tâches plus complexes qui se manifestent dans l'égocentrisme piagétien, qu'est-ce qui se passe avant cette période? Et donc là, je vais répéter quand même quelques faits qui ont été déjà introduits par Olivier Houdet, mais je vais quand même élaborer un peu plus. Avant cette réussite, mais aussi après cette réussite, parce que le développement ne finit pas à ce moment-là. Quand on a résolu et on a pu faire ces changements de point de vue dans les situations, on n'a pas pour cela fini une fois pour toutes de se poser la question de la pluralité des points de vue et de les savoir donc coordonner, décentrer et intégrer les miens avec les autres pour trouver une nouvelle solution. Et en fait, comme on a vu dans la citation de Shaw, on a souvent des questions de ce type. Bien. Donc, un premier problème, une première question, quand on va regarder chez les tout-petits, on a déjà vu cette empathie avec l'autre, donc la prise en compte de la personne. On sait aussi un tas de choses sur cette connaissance des personnes pendant la première année. On sait que, par exemple, les enfants font très tôt la différence entre une personne et un objet. Alors, je vais commencer par un dispositif appelé la falaise visuelle. Et ça, c'est un plateau en verre où on a un damier qui est tout de suite en contact de l'enfant, de la partie droite du dispositif, tandis que la partie gauche, il y a les verres, mais les damiers, ils se trouvent tout à fait en bas de cette cage, ce qui fait donc une perception de profondeur. Et nos bébés, donc jusqu'à 14 mois, surtout pendant une certaine période, hein, ne traversent pas facilement. Hein, donc, ils sont placés dans la partie basse, si on veut, et ils ne traversent pas facilement vers la partie profonde. Alors, il y a une question de la référenciation sociale qui est très intéressante et qu'on voit à ce moment-là, que les enfants, non seulement ils peuvent reconnaître les états émotionnels d'autrui, mais ils peuvent en prendre des informations et en tirer des conséquences. Et donc, si on met la maman du bébé de l'autre côté donc, de cette falaise visuelle avec une expression joyeuse, on voit que 75% des enfants traversent tranquillement cette falaise. Tandis que si elle prend une expression de peur, alors aucun des enfants va traverser la falaise. Donc, non seulement ils peuvent lire dans les émotions des autres, et donc, mais aussi en prendre, comme je disais, de l'information et les faire sienne. Aussi, autre question qu'on a explorée empiriquement, c'est que les autres personnes peuvent avoir des désirs différents, aimer aussi des choses différentes. Donc, on présente des biscuits et des brocolis. On voit que l'enfant aime bien les biscuits, mais il n'aime pas les brocolis. Et on a donc après, l'expérimentateur fonctionne sous deux conditions. Soit il présente les mêmes goûts, en regardant les biscuits, il dit miam miam, et les brocolis, beh. Ou bien il fait exactement l'inverse, et en regardant les biscuits, il fait oh, et les brocolis, miam miam, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'expérimentateur dit, encore, hein, donc suggérant qu'il en veut encore. Tu m'en donnes encore. Qu'est-ce qu'il va donner l'enfant? Est-ce qu'il va lui donner les brocolis ou il va lui donner les biscuits? Bien sûr, la question, la situation critique est celle où les goûts sont différents. Et quand il y a donc des goûts qui sont différents, eh ben, jusqu'à 14 mois, donne à l'expérimentateur ce qu'il lui aime, c'est-à-dire les biscuits. Tandis qu'à 18 mois, il donne à l'expérimentateur ce que l'expérimentateur aime, et donc il lui donne les brocolis. Fait cette différence. Donc, il y a aussi une prise en compte des intentions d'autrui. Donc, je prends comme exemple cette petite recherche relativement récente, où on a travaillé avec un dispositif dans lequel une personne fait semblant, fait un jeu de faire semblant. Donc, je vais en parler un tout petit peu vers la fin. Donc, le jeu de faire semblant, vous connaissez, par exemple, je fais semblant de verser du liquide et puis je fais semblant de boire. D'accord? Alors, ce qu'on a ici, c'est que dans la première situation, la personne fait semblant de verser dans les gobelets roses, et puis après, prend les gobelets roses et boit de ses verres, ou fait semblant de boire. Tandis que dans la deuxième partie, il fait semblant de verser dans les bleus, et puis il prend les roses et fait semblant de boire dans les roses. Alors, ce qu'on observe, c'est que les enfants, tout autant comme on l'a vu tout à l'heure dans la situation de fausse croyance perceptive, il est surpris, les bébés de 15 mois sont surpris quand les personnages font semblant de boire du verre dans lequel ils n'avaient pas fait semblant de mettre liquide. Donc, cette discordance entre l'intention de boire de ses verres et puis après il va boire d'un autre sur lequel il n'a rien fait, donc lui pose un petit souci, disons une question, et il est surpris de cette situation. Là, il y a aussi la compréhension implicite des connaissances d'autrui. Et à nouveau, ça, on les voit, on les infère à partir des comportements. On voit ici un petit dispositif où il y a trois conditions différentes, l'enfant et la mère. Soit, dans la première situation, il y a deux objets qui sont visibles aux deux, soit il y a un écran qui couvre un de ces objets pour la maman, mais pas pour l'enfant, donc l'enfant voit toujours les objets, et la dernière situation où la mère ne voit aucune des cibles. Et on voit que dans l'interaction qu'ils ont dans cette situation, il y a des différences importantes dans le comportement de l'enfant qui a tendance à pointer, vocaliser et même utiliser du langage. Là, on est à partir de 18 mois que ça, on constate cette différence. Quand la mère ne voit pas la cible, donc il lui indique, il vocalise et même il peut donc verbaliser ce qu'il voit. Tandis que quand la mère voit les deux objets, donc il y a moins de cette activité. Quelque chose de tout à fait semblable dans un autre dispositif. Donc l'expérimentateur cache un objet dans l'une des boîtes, et soit la mère regarde où l'objet est caché, soit la mère ne regarde pas. Hein, parce qu'elle est sortie de la pièce. Et alors on voit qu'à nouveau, quand l'enfant voit cet objet qui est placé en dehors de sa portée, donc il fait ce qu'on appelle une demande, une requête, la manière de demander cet objet est différente si la mère a vu l'endroit où l'objet est caché, se trouve donc, ou bien si la mère n'a pas vu, parce que justement elle n'était pas dans la pièce au moment où l'objet était caché. Bien. Je viens maintenant à voir, toujours pour cette période, qu'est-ce qu'une conduite qui est la conduite de verbaliser, d'utiliser les langages, qui est un peu plus ma spécialité, puisque je m'occupe de l'acquisition du langage chez les petits et aussi chez les grands, comme vous verrez. Donc, peut nous renseigner sur cette capacité à prendre en considération autrui. Donc, on sait, on l'a vu, on nous a expliqué très bien Alain Berthoz tout à l'heure, qu'il y a un développement qui s'est fait pendant la première année où l'enfant arrive à un moment donné à coordonner son attention, l'objet et la personne. Et donc, il va indiquer l'objet et regarder alternativement la personne et l'objet pour indiquer, voilà, c'est là que je veux que ton attention soit. Donc, coordonne dans une conduite globale l'attention à l'objet et l'attention à la personne. Et ça, donc, on l'appelle l'attention conjointe vers un objet sur l'ici et maintenant, sur ce qui est présent. D'accord ? C'est déjà un beau travail de l'avoir fait. On sait qu'il est très important pour un tas de choses et on le considère aussi à la base de la communication qui est réussie et même à la construction des premières connaissances langagières. Parce que comment l'enfant pourrait savoir, par exemple, ça s'appelle rose, si on ne segmente pas le monde et puis à un moment donné, ah, regarde, c'est une rose. Donc on a segmenté de tout ce qu'il y a à disposition dans le monde cet objet-là. Mais ce n'est pas de ça donc, que je vais parler. Je vais parler d'autre chose, parce que les langages, justement parce que c'est un instrument de symbolisation et de représentation, il permet de dépasser justement les frontières de l'immédiatement perceptible, de ce qui est ici et maintenant. On peut parler du passé et du futur, et à ce moment-là, on les convoque quelque part dans le présent, justement parce que j'en parle. On peut parler de ce qui n'est pas là, hein, de ce qui est subjectif, de qu'est-ce que je sens, ressens, crois, pense, etc. Aussi de faire connaître donc les raisons et les motivations de comportements, qui autrement resteraient des comportements qui souvent ne sont pas très clairs pour quelqu'un d'autre. Donc, ces langages, on va dire, que je vais appeler des types informatifs, apportent justement des informations à l'interlocuteur. Et si l'enfant pouvait, on pouvait voir donc un changement de cette utilisation qui va de l'ici et maintenant à une utilisation, par contre, qui porte dans l'hier, autant spatial que temporel, ben, on pourrait imaginer que cela peut-être correspond à un moment où il, implicitement, il pense que l'autre a besoin d'informations, qu'il ne partage pas tout à fait les mêmes connaissances et points de vue. Donc, il y a d'abord, on observe pendant la deuxième année que l'enfant commence à avoir des mots tout à fait explicites hein, pour parler de ses états internes. On va commencer par des états internes de type, disons, perceptif, émotionnel, type père ou bien la femme, soif, j'ai mal, fâché, aime, content. Et en un deuxième temps, ça sera plutôt pour les états qu'on appelle épistémiques, de type savoir, croire, penser. Et toutefois, en tant que savoir et penser, ils ne sont pas si tardifs que ça. Ils vont aussi apparaître vers la fin de la deuxième année, début de la troisième. Donc, ça, c'est première chose. Mais il y a aussi, donc, on voit apparaître à un moment donné dans cette deuxième partie de la deuxième année, l'enfant qui parle du passé. Et parfois, comme cet exemple montre, c'est parler du passé peut même se faire pas de façon tout à fait simple et réussie dans la communication, avec une petite panne ici de compréhension. Donc l'enfant dit et signe. Ils sont en train de regarder une image dans le livre et la mère dit il y a un signe. Et l'enfant dit pain. Il n'y a pas de pain sur l'image. Et donc il se retourne et regarde la mère. Et la mère ne prend pas ce signal tout de suite. Il ne pense pas que l'enfant puisse parler de quelque chose qui n'est pas là. Il dit, oui, il y a un signe, oui, là. Donc, il reste dans ce qu'il a dit auparavant. Et l'enfant insiste, pain. Et la mère, hein? Pain. Et la mère finalement comprend. Il dit, ah oui, on a été donné du pain au signe, nous, hier. Donc, voilà une attention de l'enfant qui ne portait pas sur l'ici et maintenant, mais sur un autre moment, et qu'il voulait partager avec la mère. Il a essayé avec les moyens qu'il a à disposition, un peu primitive, et dans ces cas, donc, ça donne lieu à un certain échange conversationnel qui prend un petit moment. Autre conduite qu'on observe, c'est le fait de fournir des justifications pour faire des requêtes. Donc on a vu que la requête, c'est-à-dire demander à quelqu'un de faire quelque chose, est un comportement qu'on voit déjà de manière préverbale. Donc l'enfant, là, le nôtre, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure, il va faire un, regarde la mère, il regarde l'objet, c'est déjà une requête, ben, je ne peux pas le prendre, donc la mère en fait que c'est elle qui va prendre l'objet pour l'enfant. Et puis les requêtes prennent de plus en plus donc une forme langagière où l'enfant va nommer, par exemple, l'objet qu'il veut ou qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir ouvert. Mais à un moment donné, il ne va pas parler de cet élément-là, de la situation des requêtes. Et par exemple, en donnant la boîte à la mère, au lieu de dire « ouvre » ou « maman » ou « bébé », parce que « bébé » c'est l'objet qui est dedans, il lui dit à sa mère, en donnant cet objet, « Epa », c'est-à-dire « je ne peux pas le faire ». Il lui ajoute donc une justification pour laquelle je viens vers toi pour essayer de te mettre en mouvement. Donc il lui donne en fait une raison pour cette conduite que autrement la mère pourrait dire, surtout nos mères occidentales, etc., vont dire « mais essaye, fais-le toi-même ». Donc il y a cette envie des adultes que les enfants réussissent quelque chose, donc ils renvoient la balle, si on veut, à l'enfant. Alors l'enfant, avec cet « epa », fait comme une espèce de mouvement, comme on dit, « après tu ne pourras pas me renvoyer la balle parce que je ne peux pas le faire, je te l'ai déjà dit ». Et aussi, donc, il va, quand on dit non, et comme vous le savez, les non commencent tôt, mais à un moment donné du développement, il y aura un non qui est auquel on ajoute quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire à la place? Donc, quelque chose qui les nuance, c'est non. Parce que, disons, un non est un peu brutal dans l'interaction. Et en ajoutant ce quelque chose, on suppose qu'il prend en considération le fait qu'il faut convaincre le mental, donc, de son partenaire. Ici, par exemple, il joue à la balle, il lance la balle, et la mère, à un moment donné, dit « tu les laisses là, hein, maintenant ». Et l'enfant dit « non ». Et joue, je joue. Hein? Bah, tu sais que tu ne peux pas jeter les ballons dans la maison, ça c'est une règle de la maison, et la mère donc insiste, il ne faut pas le faire. Et l'enfant ici trouve la solution, il dit au foot. Donc il les met par terre, il donne un petit coup de pied, donc là il trouve un compromis pour résoudre les conflits entre eux. Mais ce qui nous intéresse ici est cet ajout de justification, même très primitive, donc quelque chose qui va avec le non, pour convaincre donc autrui de son propre point de vue. Et quatrième domaine d'utilisation du langage est le fait que donc l'enfant, quand il joue justement à se faire semblant et construire des significations qui sont tout à fait subjectives, qui sont difficiles à comprendre par quelqu'un d'autre, si ce quelqu'un d'autre est là, ben, le langage commence à prendre un rôle important dans la construction et dans le partage de ces significations. Et nous allons voir que le langage au début, il est plutôt pas tellement, il apporte pas tellement d'informations, donc il met le bébé dans le berceau, il va dire bébé ou il va dire là, tandis que après, il va dire des choses beaucoup plus complexes avec les langages, qui ne seraient pas transparentes pour quelqu'un qui regarde. Par exemple, il dit « pleure » en les mettant dans les berceaux, « au dos, au pas ». Il ne veut pas faire dodo, ce bébé. D'accord? Donc ça ajoute, et nous l'avons appelé donc un langage plus informatif. Alors, quand on va voir comment ces différentes conduites se mettent ensemble. On voit déjà qu'il y a une différence individuelle entre les enfants. Chaque figure ici illustre un profil développemental longitudinal d'étude des cas. Donc, on voit que c'est en vert, donc on voit les références au passé qui sont très claires. Et en bleu, on voit les justifications que l'enfant donne dans différentes situations, que ce soit pour justifier une demande, que ce soit pour nuancer son refus et son opposition. Et on voit que tout se passe, donc ces changements, avant il n'y a rien, donc quand il n'y a pas ici, donc, ça veut dire que ces conduites ne sont pas observées. La ligne indique que la plupart du langage dans le jeu de faire semblant est du langage qui n'apporte pas des informations pertinentes pour le jeu de faire semblant, tandis qu'on voit qu'il y a un renversement et que ce renversement coïncide avec une consolidation, si on veut, de cette conduite, comme si à un moment donné, qui est autour entre 18 et 24 mois, disons, selon les enfants, donc il y a cette tendance à utiliser ces moyens pour donc partager, informer l'autre ou les persuader. Donc, d'ailleurs, on a vu que les enfants qui argumentent et justifient le plus dans les situations conflictuelles, donc celles où il y a ces points de vue différents, sont ceux qui plus tard réussissent plutôt la situation de fausse croyance. Donc il y a quand même une corrélation entre ces développements précoces et les développements qui est plus tardif. Bien. Alors, je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes pour conclure. 3-4, d'accord. Donc, je voulais maintenant passer au développement ultérieur. Le développement ultérieur, je vais l'illustrer avec une situation de récit, donc où l'enfant doit raconter à quelqu'un une histoire, et l'histoire qu'on a choisie, c'est une histoire de malentendu ou de fausse croyance entre deux personnages. C'est une activité complexe. L'histoire qu'on présente aux enfants, c'est celle-là. Ils voient ces images apparaître plus ou moins comme ça, l'une après l'autre. Après, ces images disparaissent, mais il peut les revoir. Donc, les moments où il dit « oui, j'ai bien compris », il va raconter l'histoire. Et donc, cette histoire de malentendu, parce qu'il y a un événement clé qui est la pierre qui est sur les chemins des enfants qui se rencontrent, et il y a un qui trébuche sur la pierre et sans le vouloir, donc, il pousse l'autre enfant qui, lui, il croit que l'autre l'a fait exprès, donc il le repousse à nouveau. Après, il y a l'explication et tout finit donc dans la paix. Alors, si les enfants comprennent qu'il s'agit d'un malentendu, les raconter devrait amener l'enfant à présenter deux points de vue différents en parlant des intentions de l'un et des croyances de l'autre. Et on sait que les enfants donc ne font pas cela tout de suite de la même manière à tous les âges. Et donc, on voit qu'au début, il donne des choses qui sont des récits qui sont vraiment très descriptifs, même s'il n'a pas les images sous les yeux. Par exemple, il y a un garçon, une fille, les filles poussent les garçons les repoussent et après, ils deviennent amis. Un peu plus tard, il y a beaucoup plus de langage, disons, c'est plus élaboré, mais les relations ne sont pas tellement plus élaborée. Ben, il y a une fille et un garçon, et après les garçons, il a poussé la fille. La fille, elle est tombée par terre, elle s'est mise à genoux, il l'a relevée, et puis après, ils sont redevenus amis. Donc, il y a plus de détails, mais il n'y a pas beaucoup plus d'éléments qui nous intéressent. Tandis que là, un récit d'un enfant de 8 ans, ces deux amis qui se disent bonjour, il y en a un qui ne voit pas une pierre et qui tombe et qui pousse en faire exprès son ami. Après, l'autre garçon, il le pousse parce qu'il croyait qu'il l'a fait exprès. Et après, il tombe sur les fesses et après, les garçons, il les reprend pour les remettre debout. Et après, ils font la paix. Donc, il y a déjà ici beaucoup plus d'éléments qui nous intéressent. Donc, quand on regarde, par exemple, est-ce qu'il parle des états internes, états physiques, perceptifs, émotions, intentions? Ça, ils vont les faire relativement tôt. Donc, à 6-7 ans, on peut avoir des éléments comme ça. Par contre, les éléments épistémiques qu'on a vus déjà dans les premiers développements, avant, donc jusqu'à 3 ans, ils sont plus tardifs, de type « il ne savait pas comment il était tombé, il croit qu'il a fait exprès de les pousser », ils sont plus tardifs. Et on voit ici que si on prend les enfants par âge, donc les pourcentages de ceux qui parlent de ces états épistémiques, on voit ici des situations que je n'ai pas le temps de vous illustrer, mais on a un premier récit en bleu et un deuxième récit qu'ils font après qu'on a un entretien avec l'enfant. Donc, on voit que de toute façon, l'entretien est très porteur, il y a toujours des améliorations. Mais en fait, c'est même à 10-11 ans, de manière spontanée, donc les états épistémiques, pas tous les enfants peuvent parler de ces états épistémiques. Quand il s'agit donc de regarder ce qu'il parle de la fausse croyance, ou en tout cas il nous permet de l'inférer, donc les faits par exemple, ils disent, il a trébuché sur une pierre, donc il y a une cause physique, l'autre croit qu'il l'a fait exprès, il n'y a pas seulement une croyance, mais étant donné qu'il y a un événement physique et après une croyance qui par contre porte sur l'intentionnalité, ben, on peut inférer qu'il a parlé de cette croyance comme étant fausse. Et puis ensuite, donc ils peuvent résoudre les malentendus. Et par exemple, j'étais pas poussé, j'ai trébuché, dit un personnage, et l'autre, oh pardon, j'ai cru que tu l'avais fait exprès. Donc il simule un petit dialogue pour même résoudre cette question, et on voit que ces deux points de vue différents, ils sont coordonnés. Alors, ce qu'on peut voir dans les résultats à nouveau par âge, donc vous voyez qu'il y a du bleu, c'est-à-dire les spontanés, ben, il faut quand même attendre 8-9 ans pour que les enfants commencent à expliciter cet élément de croyance. Et ce n'est que donc après des questions avec l'expérimentateur qu'on commence à voir un début de ça. Ça veut dire qu'il y a latent, mais pour certains enfants, n'apparaît du tout. Voilà. Donc, pour conclure, ces décalages nous amènent à dire qu'on a toujours à travailler ces questions, qu'il y a quand même ici différents niveaux de fonctionnement. C'est un premier élément, une première dimension d'un savoir-faire et des connaissances très implicites qui va vers des connaissances qui sont de plus en plus explicites. Mais il y a aussi la question de différentes capacités qui sont mises en jeu, de quel type de compétences on sollicite, la perception, donc juste une intuition ou bien une vraie compréhension, la production elle-même, qui peut être plus ou moins complexe, un comportement simple, un comportement langagier qui demande quand même des intégrations à différents niveaux. Et évidemment, la complexité de l'activité et la charge émotionnelle qu'on peut avoir aussi quand on réfléchit à quelque chose, comme par exemple la chasse au tigre. Voilà.